Vous êtes sur RTL.
Oui. 7h30, c'est le Tout Info avec Yann Bouchery. Bonjour Yann.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info de RTL pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 13 septembre.
Et tout d'abord, l'inquiétude non dissimulée de nombreux professionnels de santé. Pour la première fois, la France a franchi le seuil des 10 000 contaminations au Covid en 24 heures. 86 nouveaux foyers de contamination ont été détectés également. Dans une tribune au JDD, plusieurs médecins et professeurs, dont le généticien Axel Kahn, appellent, je cite, à siffler la fin de la récréation et demandent aux Français d'éviter les rassemblements privés. La réponse du gouvernement n'est pas suffisante pour le moment, selon Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris.
On est très inquiets. 10 000, c'est un chiffre qui est important. Hein. Les chiffres de Santé publique France sont inquiétants sur le taux de positivité, sur le nombre de clusters. Ce 10 000 minimise les réalités régionales. Il y a tout à penser qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ce qui est extrêmement inquiétant. Tout ce qui se passe en Île-de-France, en PACA, à Bordeaux. Il y a une progression de l'épidémie, il y a une alerte épidémiologique. Et puis à la fois, une inadéquation des mesures proposées. Il y a vraiment une problématique à prendre en compte. Et je pense que pour l'instant, ce qui est mis en face en termes de décision publique n'est pas suffisant.
Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, au micro RTL de Valentin Boisset. Inquiétude grandissante aussi dans un EHPAD à Sévérac dans l'Aveyron. 4 personnes âgées sont déjà décédées et 69 des 73 résidents sont contaminés, ainsi que la quasi-totalité de l'équipe de soins.
Pour leur retour sur le pavé, les gilets jaunes n'ont pas vraiment mobilisé. Hein.
Ils étaient 8500 en France, dont 2500 à Paris. Près de la place Wagram, quelques heures ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 275 personnes ont été interpellées dans la capitale et selon le parquet, 147 étaient encore en garde à vue hier soir. L'ordre républicain a pu être tenu grâce à l'évolution de la doctrine d'intervention, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Monsieur le préfet de police de Paris a mis en place une stratégie de maintien de l'ordre qu'on a continué à mettre en place avec quelques aménagements. Le superviseur qui empêche les tirs de LBD, il n'y a pas eu de tir de LBD d'ailleurs aujourd'hui, et cette nouvelle grenade qui remplace l'ancienne. Et puis par ailleurs la mobilité qui permet effectivement aux agents des forces de l'ordre de pouvoir se rendre plus vite sur les lieux grâce aux motos, de pouvoir intervenir plus vite et d'encadrer de manière plus efficace ces manifestations.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La France mise en cause par la Turquie. Emmanuel Macron avait jugé inadmissible le comportement d'Ankara qui a poursuivi ses recherche de gisements d'hydrocarbures en Méditerranée dans des zones revendiquées par la Grèce. Eh bien, le président Erdogan lui a répliqué hier en l'avertissant, je cite, de ne pas chercher de querelle à la Turquie. Face à cette escalade, la Grèce a décidé de commander 18 avions Rafale au gouvernement français.
Il avait décidé de se laisser mourir en refusant de s'alimenter. Alain Coq a finalement changé d'avis.
Oui, atteint d'une maladie incurable et militant pour une fin de vie dans la dignité, il voulait faire de son agonie un combat, mais il a décidé de bénéficier de soins palliatifs. Il s'exprime aujourd'hui depuis son lit d'hôpital et encore très affaibli.
C'était vital, parce qu'à une demi-heure près, j'étais mort. Les douleurs étaient telles que j'ai décidé d'accepter leur main tendue. Je précise que les douleurs sont toujours là, identiques. J'ai recommencé à m'alimenter doucement mercredi midi, mais ça a été tout doux. C'est vraiment, j'avais trop mal, c'était devenu trop insupportable. Sinon, vous savez, j'aurais continué. Dans la tête, j'ai surtout besoin pour l'instant de repos. Ensuite, je verrai pour reprendre mon combat à partir de la chambre de mon appartement, puisque maintenant, c'est ce qui m'attend à rester dans ma chambre.
Un document RTL signé Nerissa Emani. Alain Coq veut aussi désormais s'investir pour la prochaine présidentielle. Il entend demander à chaque candidat de se prononcer sur la fin de vie dans la dignité.
Sur le Tour de France, Yann, un Danois s'est imposé hier à Lyon.
Søren Krag Andersen a remporté la 14e étape en plaçant une attaque fatale à quelques kilomètres de l'arrivée dans les rues de la capitale des Gaules. Le Slovène Primoz Roglic a conservé son maillot jaune à la veille d'une étape de montagne qui se conclura aujourd'hui en beauté par l'arrivée au sommet du Grand Colombier, un col classé hors catégorie.
RTL Tour de France 2020.
Fenêtre sur Tour.
Avec Christian Laborde.
Et la grande boucle aborde aujourd'hui le massif alpin et donc se rapproche de l'Italie, un pays cher à votre cœur, Christian, et si important dans l'histoire du cyclisme.
Le Tour de France, c'est l'Italie qui débarque ici avec son A et tous ses I. Le A, c'est Bottecchia, Ottavio Bottecchia, le maçon du Frioul. vainqueur du Tour de France en 1924 et 1925. Le 22 juin 1924, Ottavio Bottecchia s'empare du maillot jaune lors de la première étape et le garde jusqu'à Paris. Un exploit que seul Jacques Anquetil renouvellera 37 ans plus tard, en 1961. Il y a le i de Gino Bartali, qui remporte le Tour en 1938, puis 10 ans plus tard, en 1948. Combien de Tours de France Bartali aurait-il gagné s'il n'y avait eu la guerre? Il y a le i de Fausto Coppi, qui remporte le Tour de France en 1949 dans le col de l'Izoard et en 1953 dans la montée de l'Alpe d'Huez. Il y a le i de Gastone Nencini, félicité par le général de Gaulle sur la route de Colombey en 1960. Il y a aussi le i du jeune Felice Gimondi, qui découvre et remporte le Tour en 1965. Et il y a enfin le i de Marco Pantani et celui de Vincenzo Nibali. Le premier est un pirate, le second un requin, et les deux des stylistes. L'Italie, c'est toujours la beauté, l'élégance azurée sur nos routes anciennes.
Grazie mille, Christian. Départ de l'étape du jour à 12h50 de Lyon, à vivre toutes les demi-heures sur RTL et l'arrivée en direct. Le foot est la troisième journée de Ligue 1. Victoire de Montpellier sur Nice 3-1 et de Saint-Etienne devant Strasbourg 2-0. Ce soir, place au classique PSG-OM. Côté Paris, Neymar, Navas, Di Maria et Paredes, rétablis du Covid, postulent pour disputer le choc. En Ligue 2, le Paris FC est seul en tête après sa victoire 2-1 à Amiens. Le top 14 de rugby, le Stade Toulousain a dominé La Rochelle 39-23. Victoire de Bayonne sur Clermont 21-19 et de Bordeaux-Bègle devant Brive 25-20. Le tennis, la japonaise Naomi Osaka a remporté la finale de l'US Open. Elle a battu la Bélarusse Victoria Azarenka 1-6-6-3-6-3. Et puis les deux Mercedes d'Hamilton et Bottas s'élanceront en première ligne du Grand Prix de Toscane de Formule 1 sur le circuit du Mugello. Déception pour Pierre Gasly, victorieux le week-end dernier à Monza, on s'en souvient. Il partira seulement en 16e position.
Peut-être encore un petit peu le volant et la tête dans les nuages, évidemment. Merci Yann, à tout à l'heure 8h30 pour nous informer. Toute info de RTL, bien sûr. Vous savez tout en allant cliquer sur le site rtl.fr, à disposition l'appli. Dans un instant, on va lire avec monsieur Bernard Lehu. À tout de suite.
Bonne matinée avec Stéphane Carpentier. RTL, toujours avec